de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés entre autres. Construire IKN, construire une nouvelle civilisation indonésienne. L'Agence de météorologie, climatologie et géophysique BMKG prédit la menace de la Nina pour l'agriculture. Ambassade de Russie à Jakarta organise l'élection présidentielle de 2024. Pilote indonésien remporta avec succès la classe ARRC ASB 1000 en Thaïlande. Joueur indonésien de badminton Jonathan Christie remporte le All England Open 2024. Double féminine indonésienne de badminton remporta le Master d'Orléans 2024. Russie demande à Macron de cesser de soutenir le terrorisme concernant le cessez-le-feu. Mon cher Jouetard, voici les nouvelles en complet. Le chef de l'autorité de la capitale d'État Nusantara IKN, Bambang Susantono, a déclaré que le développement de la capitale d'État Nusantara IKN ne concerne pas seulement la construction d'infrastructures et d'installations gouvernementales, mais une nouvelle civilisation indonésienne. Cité par Antara dimanche 17 mars, Bambang a déclaré que le développement de la capitale de l'archipel est l'un des efforts visant à soutenir le développement économique inclusif ou l'ouverture en diffusant une nouvelle croissance économique. Il a également déclaré qu'une synergie mutuelle ou une coopération entre les gouvernements régionaux, les ministères et les institutions du gouvernement central pourrait faire de la capitale de l'État IKN l'un des jalons en or de l'Indonésie. Bambang a également expliqué que la capitale de l'État Nusantara IKN peut réaliser un développement équitable dans toute l'Indonésie et devenir un symbole de la nation indonésienne. L'Agence de météorologie, climatologie et géophysique prédit une perturbation potentielle du secteur agricole. Cela est dû au changement météorologique d'El Nino à la Nina. Cité par rri.co.id dimanche 17 mars, le coordinateur de l'analyse de la variabilité climatique de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique sous Paris a déclaré dimanche à Pro3 RRI que la présence de la Nina pourrait augmenter les précipitations. Soupare a déclaré qu'il fallait anticiper les perturbations de la Nina, notamment pour les cultures vivrières ou agricoles sensibles aux précipitations. Il a également souligné la nécessité de gérer cette situation le plus tôt possible pour anticiper les impacts. Il a déclaré que le secteur agricole devrait se préparer à d'éventuelles perturbations dues à l'augmentation des précipitations pendant la saison sèche. L'ambassade de Russie à Jakarta organise l'élection présidentielle russe de 2024, à laquelle participeront des centaines de citoyens russes en Indonésie. Cité par Antara dimanche 17 mars, la chargée d'affaires de l'ambassade de Russie à Jakarta, Veronika Novoselseva, a déclaré que le bureau de vote était ouvert de 8h à 20h heure locale. Elle a révélé que l'ambassade de Russie avait procédé au vote en utilisant le système de Point Place, TPS, et via une application pour les citoyens russes qui se trouvaient à Bali et ne pouvaient pas se rendre à Jakarta. Cette méthode a été utilisée pour la première fois. En Russie même, l'élection présidentielle russe de 2024 se déroulera sur 3 jours. À savoir du 15 au 17 mars 2024, dans le but d'offrir du temps libre aux électeurs et de réduire la densité potentielle de concentration des citoyens russes. Veronika a déclaré que le nombre de citoyens russes en Indonésie est actuellement d'environ 40 à 45 000 personnes, y compris les touristes russes en Indonésie qui ne sont pas domiciliés en Indonésie. Pendant ce temps, il y a 1 millier de personnes qui vivent. Le pilote indonésien Andy Farid Izdihar a réussi à remporter la catégorie Asia Superbike 1000 ASB 1000 du championnat d'Asie de course sur route ARRC 2024 lors de la série inaugurale du circuit international de Chang Buriram, Thaïlande, dimanche 17 mars, comme le rapporte Antara dimanche 17 mars. Andy Farid a pris le départ de la course depuis la deuxième position, réussissant à conserver sa première ligne au début de la course de 13 tours. Andy a concouru avec succès contre le coureur japonais Yuki Kuni et le coureur malaisien Hafiz Shahrin Abdullah. Andy a réussi à terminer la série inaugurale de la classe ARRC 2024 ASB 1000 en tête du classement avec 45 points, suivi à la 12e place par Azlan avec 36 points et Nakarin Atirat Pouvpavat avec 25 points. La deuxième série de la RRC 2024 se tiendra dans un mois, soit du 19 au 21 avril sur le circuit international de Zhuhai en Chine. Jonathan Christie bat Anthony Sinisuka Ginting lors de la finale All Indonesian All England 2024 en simple masculin. Antara a rapporté dimanche 17 mars que lors du match final qui s'est déroulé dimanche, Jonathan a battu Anthony Sinisuka Ginting en match consécutif 21-15, 21-14 en 54 minutes. Pas seulement c'est la première fois depuis 1994 quand Haryanto Arbi a remporté le titre au All England, mais c'est aussi la première fois que Jonathan se qualifie comme finaliste et remporte le titre de champion du tournoi BWF Super 1000. D'autres des représentants indonésiens qui participeront au tour final du All England Open 2024 en double masculin Fajar Alfian et Mohamed Rian Ardianto tenteront de défendre leur titre contre les médaillés de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de la Malaisie, Aaron Chia et Soh Woi Yik. Les doubles féminines indonésiennes Melissa Trias Puspitasari et Rachel Alicia Rose ont réussi à remporter le tournoi de badminton BWF Super 300 Orléans Master 2024 après avoir battu les doubles féminines japonaises Rui Hirokami et Yuna Kato 21-12, 21-18 dimanche 17 mars à match final. Antara, lundi 18 mars, a rapporté que pas seulement Melissa et Rachel, deux autres représentants indonésiens à la finale du Master d'Orléans 2024, ont réussi à remporter des médailles. Le double mixte Rinov Rivaldi et Pita Haningtyas Mentari sont également arrivés deuxième après avoir perdu contre la paire chinoise Cheng Xing et Chang Chi dans un match serré 21-16, 18-21, 15-21. En dehors de cela, la paire de double masculin Sabah Karyaman Gautama et Mohamed Reza Pahlavi Isfahan ont réussi à remporter une médaille d'argent après avoir perdu contre la paire malaisienne Chong Hon Jian et Mohamed Haikal dans un match en caoutchouc 15-21, 21-18, 14-21. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par Sputnik, a répondu dimanche 17 mars à la proposition du président français Emmanuel Macron concernant un éventuel plan de cesser le feu dans le conflit ukrainien pendant les Jeux olympiques. Macron avait précédemment déclaré aux médias ukrainiens que Paris demanderait Moscou d'adhérer à un cessez-le-feu dans le conflit ukrainien pendant les Jeux olympiques de 2024. Zakharova a parti en conflit au Moyen-Orient. Les Jeux olympiques d'été de Paris 2024 se tiendront du 26 juillet et 11 août. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Troisième sommet de la démocratie, solution aux défis de la démocratie ». La Corée du Sud accueille le troisième sommet pour la démocratie du 18 au 20 mars 2024 sur le thème « La démocratie pour les générations futures ». La série de sommets a débuté par une réunion au niveau ministériel ainsi que la discussion d'une table ronde d'experts le 18 mars. Le deuxième jour, il y aura un certain nombre de discussions thématiques et d'ateliers animés par la société civile. Pendant ce temps, le point culminant de l'événement, à savoir la plénière du sommet, tiendra virtuellement le 20 mars. Environ 300 délégués, dont des responsables gouvernementaux, des représentants d'organisations internationales, des universitaires et de la société civile, se sont réunis en Corée pour discuter des améliorations politiques et des voies stratégiques pour façonner un avenir meilleur pour les générations futures. Le sommet sur la démocratie s'est tenu pour la première fois les 9 et 10 décembre 2021, guidé virtuellement par le président américain Biden. Des représentants d'environ 110 pays ainsi que des membres de la société civile et des dirigeants du secteur privé ont pris part à la conférence centrée sur les trois thèmes principaux, à savoir la protection contre l'autoritarisme, la lutte et l'éradication de la corruption et la défense des droits de l'homme. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui a assisté au sommet sur la démocratie à Séoul, a déclaré dimanche 17 mars 2024 sur son compte de réseau social Instagram que sa présence était destinée à répondre à l'invitation de la Corée du Sud et à prendre la parole lors d'une réunion au niveau ministériel. La ministre des Affaires étrangères, Retno, s'entretiendra également avec plusieurs partenaires. Auparavant, lors du deuxième sommet sur la démocratie, qui s'est également tenu à Séoul, en Corée du Sud, le président Joko Widodo, présent virtuellement, a souligné l'importance d'une démocratie forte et saine. L'Indonésie, qui assure la présidence du G20 en 2022 et celle de la SEAN en 2023, a l'expérience de naviguer dans les communautés régionales et mondiales pour traiter des questions qui constituent des défis communs. Durant la présidence du G20, l'Indonésie a souligné l'importance de se lever ensemble après la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, en tant que président de l'ASEAN, l'Indonésie concentre sa présidence sur les efforts visant à faire l'ASEAN un centre de croissance. Le développement de la démocratie mondiale est l'une des clés susceptibles d'apporter des solutions alternatives aux problèmes mondiaux. De plus, la démocratie offre à toutes les parties la possibilité de discuter, de grandir et de résoudre les problèmes ensemble. Créer un monde pacifique, stable et prospère est le droit et la responsabilité collective de tous les pays, qu'ils soient grands, petits, en développement ou développés. C'est le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 18 mars 1942. Le prince Moussa Hardy Kessouma est nommé Ritsi. Avec moi, Audrey. Sur ce soir, le 18 mars 1942, le chef de l'armée d'Aï Nippon à Banjarmasin a nommé le prince Moussa Hardy Kessouma Ritsi. Ritsi est un poste doté de la pleine et plus haute autorité dans le gouvernement civil. L'autorité du prince Moussa Hardy Kessouma supervise le Banjarmasin, Kalimantan Sud, Hulu Sungai, Kalimantan Sud et Kapuas Barito, Kalimantan Central. Auparavant, le prince Moussa Hardy Kessouma était membre de Civil Gouvernement Leadership, PPC, un gouvernement temporaire formé avec l'approbation du maire de Banjarmasin dans le gouvernement colonial des Indes néerlandaises, à savoir R. Mulder. Nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 18 mars 1962. La France et l'Algérie signent les accords d'Évian. L'accord d'Évian était un accord signé par la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne. C'est le gouvernement en exil fondé par le Front de Libération Nationale, FLN, le 18 mars 1962 à Évian-les-Bains. Cet accord a mis fin à la guerre d'Algérie qui a duré de 1954 à 1962 ainsi qu'à la libération des prisonniers, à la reconnaissance de la pleine souveraineté et du droit à l'autodétermination de l'Algérie ainsi qu'aux garanties de protection de non-discrimination et de droits de propriété de tous. De tous les citoyens algériens. Cet accord prévoit également l'obligation pour la France de retirer ses troupes dans un délai de 2 ans, à l'exception des troupes gardant la base militaire française de Mers el-Kébir. L'accord prévoit également que des sanctions ne seront pas appliquées pour les actions menées avant le cessez-le-feu. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 18 mars 2018. Et la Journée mondiale du recyclage. La Journée mondiale du recyclage est célébrée chaque année le 18 mars pour sensibiliser le monde à l'importance du recyclage et de gestion durable des déchets, ainsi que pour promouvoir des actions et des habitudes respectueuses de l'environnement pour réduire les déchets et encourager l'utilisation de matériaux recyclés. Afin de commémorer cette journée, de nombreuses activités sont organisées telles que des campagnes de sensibilisation, la collecte des déchets, le recyclage des biens et l'échange des biens usagés à travers le monde. La Journée mondiale du recyclage a été fondée en 2018 par l'Organisation globale Recycling Foundation et a été reconnue par l'ONU. Cette commémoration est l'occasion de sensibiliser à l'impact des déchets sur l'environnement et d'inciter les populations à agir pour protéger la planète pour les générations futures. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'histoire d'aujourd'hui.
Bilang kau tak berhak tanyakan hidup.
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est l'Indonésie et les membres de l'ASEAN discutent de la collaboration BIMP-IMT sur l'économie bleue. L'Indonésie et les pays membres de l'ASEAN ont tenu la semaine dernière une réunion de planification stratégique de la zone de croissance de l'Est de l'ASEAN, Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines ou BIMPEAGA à Sarawak en Malaisie. La réunion a discuté de la stratégie collaborative d'économie bleue entre la zone de croissance de l'Est de l'ASEAN, Indonésie, Brunei, Malaisie, Philippines, BIMPEAGA, ainsi que le triangle de croissance Indonésie, Malaisie, Thaïlande, IMTJT. Neti Muharni, assistante à la coopération économique régionale et sous-régionale au ministère de coordination des affaires économiques, a expliqué samedi dans sa déclaration à Jakarta que cette stratégie est conforme aux priorités de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023, dont l'une se concentre sur le développement d'une économie bleue durable et inclusive. Il a déclaré que le ministère contribuera également activement à la mise en œuvre de la stratégie d'économie bleue BIMPEAGA et IMTJT 2030. L'Indonésie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est veilleront également à ce que la mise en œuvre du cadre de l'économie bleue au sein de l'ASEAN se déroule efficacement afin que le potentiel existant d'économie bleue puisse devenir un nouveau moteur de croissance pour la région. Lors de la réunion, il a également fait part de l'évolution de la formation du groupe de travail sur l'économie bleue au sein de l'ASEAN et des projets d'organisation du deuxième forum économique bleu de l'ASEAN parrainé par l'Indonésie. Neti Muharni a également invité les membres du BIMPEAGA à assister à la réunion qui devrait avoir lieu plus tard cette année au Laos. En outre, il a également encouragé la formation d'un groupe de travail sur les produits et services halal dans le cadre de la coopération BIMPEAGA, conformément à l'intérêt croissant des différentes parties prenantes pour la collaboration dans le secteur halal. La réunion de planification stratégique BIMPEAGA, qui s'est tenue du 12 au 14 mars à Sarawak, en Malaisie, a également discuté des projets prioritaires en 2024. Des résultats de l'étude du corridor économique ainsi que de l'examen à mi-parcours de la vision BIMPEAGA 2025. Les résultats de l'examen concluent que sur la base des données 2017-2022, les objectifs de la vision BIMPEAGA 2025 ont presque tous été atteints, certains ont même dépassé les objectifs. L'année 2024 est également particulière pour BIMPEAGA car elle entre dans sa 30e année avec ses réalisations. BIMPEAGA cherche à faire évoluer l'économie grâce à une approche basée sur des projets et à l'échange de connaissances aux meilleures pratiques. Pour soutenir la durabilité de cette collaboration, l'institutionnalisation du centre de facilitation BIMPEAGA est également apparu comme un point important qui sera discuté lors de la prochaine réunion. Le long parcours de BIMPEAGA et sa position importante au cours de la région Asie-Pacifique ont également réussi à susciter l'intérêt de plusieurs pays en tant que partenaires de coopération tels que le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie qui apportent leur soutien par le biais de financements dans divers domaines. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice of Indonesia. sekedar ini. Ku mau dirimu hadir dalam hari-hariku. Nyata bukan hanya dalam mimpi saja.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Sejuritar, Lelak Lino est situé dans le village de Layendong, à environ 30 km du centre-ville de Tomohon et à environ 35 km de Manado. Beaucoup de gens disent que ce lac est un paradis caché à Tomohon. Ce lac présente des niveaux de soufre très élevés. Les niveaux élevés de soufre font que la couleur du lac change constamment. C'est pourquoi ce lac semble brillant. Sejurita, le mot Lino du lac Lino vient de la langue Minahasa, Lino, qui vient du mot Linowan, signifie un endroit où l'eau s'accumule. Les couleurs changeantes du vert, du bleu et du jaune brunâtre étonneront tous les visiteurs qui viennent voir sa beauté. Cette attraction touristique est d'une beauté extraordinaire. Les caractéristiques de l'eau du lac Lino sont uniques et présente de nombreuses couleurs, ce qui émerveille les touristes qui viennent. C'est pourquoi cet endroit est toujours occupé pendant les vacances. Ces auditeurs, la route vers le lac Linong est assez facile. Si vous venez de l'aéroport Samratulangi, vous pouvez utiliser le transport en commun pour vous rendre en ville Tomohon. Le prix du billet d'entrée depuis le lac Linong est également assez bon marché. Il vous suffit de payer 35 000 rupiah par personne pour entrer dans cette zone. Bon, chers auditeurs et chers auditeurs, c'est le magazine Cotonou pour ce soir avec comme titre Lac Linong à Sulawesi du Nord. Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est di perusahaan ekspedisi. Di perusahaan ekspedisi signifie à la compagnie d'expédition. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est « Pengiriman terlambat ». Je répète, « Pengiriman terlambat » signifie « Livraison est en retard ». C'est une conversation entre Chris, un vlogueur australien, et un officier de l'expédition à Palangkaraya, Kalimantan Central. Chris se plaint auprès du réceptionniste d'une compagnie maritime qu'il venait de rencontrer concernant la livraison tardive de sa moto. Écoutons le dialogue.
Menurut data kami, motor Bapak akan tiba sore nanti.
Seharusnya sudah pulang. Seharusnya sudah sampai 2 hari yang lalu. Mengapa pengiriman bisa terlambat?
Kami mohon maaf, Pak.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Pengiriman terlambat. Pengiriman terlambat signifie livraison est en retard. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase 2 fois. Vous pouvez les répéter après moi. Mengapa. Mengapa signifie pourquoi. Pengiriman. Pengiriman signifie livraison. Bisa. Bisa signifie peut. Terlambat. Terlambat signifie en retard. Mengapa pengiriman bisa terlambat? Mengapa pengiriman bisa terlambat? Signifie pourquoi la livraison est-elle en retard? Menurut. Menurut signifie selon ou d'après. Data. Data signifie données. Motor. Motor signifie moto. Bapak. Bapak signifie monsieur. Akan tiba. Akan tiba signifie arrivera. Sore nanti. Sore nanti signifie cet après-midi. Kami. Kami signifie nous. Mohon maaf. Mohon maaf signifie désolé. Au cours de la conversation, vous entendez mengapa pengiriman bisa terlambat? Mengapa pengiriman bisa terlambat signifie pourquoi la livraison est-elle en retard? Dans cette phrase, il y a le mot terlambat. Je répète, terlambat signifie en retard, c'est-à-dire pas à l'heure spécifiée ou pas à l'heure. Le mot terlambat. Terlambat signifie en retard dans le contexte de la conversation a été utilisé par Chris pour évaluer son service de livraison à moto qui ne répondait pas aux attentes, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à temps ou dépassé le délai prévu. L'autre exemple. Écoutons un autre exemple d'utilisation des mots pour évaluer un service qui ne répond pas aux attentes. Aduh, keretanya datang terlambat. Aduh, keretanya datang terlambat. Signifie, hélas, le train est en retard. Duh, mengapa keberangkatan pesawatnya tertunda? Duh, mengapa keberangkatan pesawatnya tertunda? Signifie, pourquoi le départ de l'avion est-il retardé? Les Indonésiens transmettent généralement leurs plaintes concernant les services qui ne répondent pas à leurs attentes en disant maaf. Maaf signifie pardon ou permisi. Permisi signifie « excusez-moi » d'abord. Cela vise à entretenir les sentiments de ceux qui reçoivent des plaintes. Par exemple, Lorsqu'un client attend trop longtemps sa commande de nourriture dans un restaurant, il peut dire au serveur « Désolé, combien de temps faudra-t-il pour que ma commande soit prête ?» Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Menurut data kami, motor bapak akan tiba sore nanti.
Seharusnya sudah dap. Ulang. Seharusnya sudah sampai 2 hari yang lalu. Mengapa pengiriman bisa terlambat?
Kami mohon maaf, Pak.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Hey boys, coba dengar aku. Ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku. Terkadang manis sekali, terkadang penuh dengan emosi. Bila datang waktunya, terkadang penuh misteri, terkadang jadi bingung sendiri tanpa alasan pasti.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec moi, Audrey. Je vais vous présenter cette fois une chanson keroncong intitulée Damai Bersamamu. chantée par Keroncong Kurmunadi. Chargée tard, cette chanson créée par Johnny Sahilatua a été popularisée par le légendaire chanteur Krishe, sorti en 1996. Cette chanson raconte l'introspection d'une personne qui se rapproche toujours de Dieu. Bon, chers auditeurs, voici Keroncong Kurmunadi va chanter une chanson de Keroncong intitulée Damai Bersamamu. Bonne écoute!
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.